si on avait, non pas limité le champ de la réflexion à la vie privée à l'hôpital, mais la vie privée dans le cadre du parcours de soins, et notamment la loi du 5 juillet 2011 qui crée en France le soin ambulatoire, le soin externe, sans consentement. Comment vous l'auriez les uns ou les autres? Est-ce que vous auriez eu tout de suite une réaction particulière? Comment vous analyseriez votre propre position dans un contexte très différent et original, entre guillemets, puisque on a créé un nouveau statut?
C'est un nouveau statut qui pose beaucoup de problèmes, pas qu'à moi d'ailleurs, parce que, alors, pour beaucoup de raisons, mais entre autres parce que c'est supposé que quelqu'un, c'est supposé qu'il n'y a pas de liberté de choix. Et bon, si vous voulez, évidemment, on va toujours pouvoir sortir des situations exceptionnelles dans lesquelles c'est parce que les pompiers ont cassé la porte, qu'on a trouvé quelqu'un qui n'allait pas bien et qui était en train de se laisser mourir de faim, et parce que les pompiers ont cassé la porte, on a pu rentrer chez lui, on a pu le soigner, etc. On a toujours des situations exceptionnelles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas construire des lois sur des situations exceptionnelles, parce que sinon, évidemment, en rentrant ici, je peux glisser sur une peau de banane, on n'est pas obligé, l'administration de l'établissement, de vérifier qu'il n'y a pas de peau de banane dans l'escalier, on n'a jamais de loi, quoi. Après, il y a des lois pour essayer de totaliser, c'est absolument absurde, quoi. Alors, moi je me souviens quand j'étais interne, on faisait des visites à domicile hein, quand même. Alors je ne sais pas comment on faisait pour se passer de cette fameuse loi du 5 juillet, mais en tout cas, je me souviens qu'on faisait des visites à domicile, qu'on pouvait requérir l'intervention de la police ou d'un serrurier, donc qui ouvrait la porte, soit pour être mandaté par la police, etc. Et on arrivait comme ça à rencontrer des patients qui, en effet, ne voulaient pas sortir de chez eux, mais ça mettait assez mal à son aise, et en tout cas, on pouvait le faire en l'absence de cette loi. Moi, je crains toujours qu'une loi justifie des abus, quoi. Enfin, voilà, donnez votre avis. Moi, j'étais pas là. Vous avez eu une réunion, vous, alors. Le jeu est inégal parce que vous avez une réunion, vous, là. Ici, vous êtes très calé sur cette histoire. Moi, je suis très peu. C'est pas mon domaine de travail, ça. Peut-être vous en dire quelque chose, vous.
Comme c'est un peu hors jeu, un peu hors sujet, c'est ma question devait être hors sujet, en fait. Non, ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'on a créé quelque chose sans du coup aller jusqu'au bout de la chose. C'est-à-dire que créer un soin sans consentement externe, ça, c'est pas uniquement effectivement les cas exceptionnels que vous évoquez et la possibilité du service à domicile. C'était effectivement un lien fort avec un patient qui n'était pourtant pas dans un soin obligatoire, un soin sans consentement. Pour le statut, j'ai parlé de statut de l'homme, le mot effectivement est fort, mais en même temps, c'est la situation très nouvelle qui est créée, puisqu'on crée une obligation de soin. Et elle existait préalablement dans un domaine extrêmement limité. Là, dorénavant, le programme de soins, l'obligation de soins est créée. Et il a son statut. Sans pour autant que la loi n'ait donné une définition des limites qui sont totalement nécessaires. Il y a tout un panel de travail qui devrait nous permettre de travailler dans la sécurité, parce que on va toucher justement la liberté, on va toucher la liberté d'aller et venir par un biais qui est extrêmement à la fois extrêmement puissant, le soin, le médicament, le suivi du soin, la prise de médicaments, etc. Donc c'est extrêmement contraignant, et en même temps, donc nous-mêmes nous allons devoir avoir une responsabilité sur une partie extrêmement contraignante. Et en même temps, vouloir donner le maximum de liberté. Donc on est dans un paradoxe extrêmement dangereux, entre guillemets, hein, où il y a d'un côté cette nouveauté que nous ne maîtrisons pas naturellement, et c'est normal, et en même temps, cette prise de risque normale que nous devons prendre, parce que justement, nous voulons la liberté, donc nous voulons le moins d'hospitalisation possible. C'est une règle, tout à l'heure, quelqu'un disait que la contention était un soin, au contraire, l'échec du soin. Est-ce que l'hospitalisation temps plein est un soin ou un échec de soin? On peut se poser ce type de questions également. Et donc, et on souhaitera effectivement limiter le soin institutionnel et hospitalier à la limite exigible, et donc maintenir et lancer des ballons le plus loin possible dans la liberté justement de vivre, tout en ayant un soin obligatoire. Et vous voyez bien, non pas le paradoxe en l'occurrence, mais le danger de nous autres, des professionnels en général, entre le tronc et les corps, une liberté que l'on souhaite donner, que la personne garde en quelque sorte cette liberté, et en même temps la difficulté qu'il y a à soigner de la même façon quand c'est à l'extérieur et ainsi de suite.
Moi je connais bien cette loi, mais de façon générale, le grand risque, c'est de faire échapper certains actes à la loi commune, certains actes de la loi commune. Il y a une loi commune, mais il y a des cas où ça ne s'applique pas. Donc, les cas où ça ne s'applique pas, on va déclarer pour certains malades, la loi commune ne s'applique pas. Le problème après, c'est que si on élargit la catégorie 9, puisque DSM-4, quand même DSM-5, en prévision, on va nous élargir encore un peu plus la catégorie malade. Et donc, du coup, c'est vrai que une loi qui est censée sortir une catégorie de la population de la loi commune peut toujours être utilisée pour sortir de cette loi commune un très grand nombre de gens. Il suffit de changer la définition de la pathologie, sans quoi activement le DSM. Alors, autour de la vie privée, on n'en a pas parlé, mais enfin, il faut quand même voir aussi, quand on parle de la part de l'intimité des patients, de la vie privée des patients, mais enfin, il faut quand même réaliser qu'on est tous extrêmement menacés dans notre vie privée par les technologies numériques. Des fois, il y a des gens qui s'inquiètent de ce que les usagers mettent d'eux-mêmes sur Internet, sur les réseaux sociaux, là, ou ce qu'ils y trouvent. En fait, le problème, c'est l'utilisation qui est faite de leurs données, non pas par les quelques personnes entre les mains desquelles elles peuvent tomber, mais comme vous savez, par les grandes entreprises qui vendent leurs données personnelles aux enchères. Donc, sur cette question d'intimité, quand même, il faut citer deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est le projet qui s'appelle Mes données ou Mes infos. C'est issu de MIDATA, MIDATA, projet né en Angleterre. Donc c'est l'idée que chacun soit propriétaire de ses données personnelles. C'est un projet actuellement relayé par la FING et encouragé par la Commission nationale d'informatique et liberté. Donc si vous êtes inquiet d'utilisation de vos données personnelles par Facebook, d'ailleurs même si vous êtes allé une seule minute sur Facebook sans jamais y retourner, sachez que Facebook a mis sur votre ordinateur un petit cookie qui transmet toutes vos informations personnelles à Facebook. Donc même si vous n'y êtes allé qu'une minute. Et Google truste toutes vos données personnelles pour les revendre aux enchères régulièrement. Donc, si vous êtes inquiet de ça, ce qui est légitime, préoccupez-vous du projet Mes données, ou Mes infos, en français, relayé par la FIL et la CNIL. Et puis, l'autre chose, il faut encourager partout la création de réseaux indépendants. Alors, peut-être, si on était... moi, je suis pour qu'il y ait des associations. Bon, il y a un équipement fibre optique. Il faut que les gens. C'est pas la question dans les hôpitaux. Et pourquoi pas, la possibilité que les gens des hôpitaux communiquent de chambre à chambre par leur matériel informatique personnel, c'est-à-dire bientôt leur téléphone mobile, sans passer par Facebook, sans passer par Google. Un réseau interne aux hôpitaux. De façon à ce, et en réseau interne, sans mémorisation. C'est-à-dire que les patients puissent communiquer entre eux des informations qui échapperaient à la fois à l'établissement hospitalier et qui échapperaient en même temps aux grandes majors qui trustent nos données. Parce que, ici, la seule alternative aux ces grandes majors qui trustent nos données, c'est de créer partout des petits réseaux qui vont leur échapper et après de coordonner ensemble ces petits réseaux. C'est le projet développé par des acteurs américains sous le nom de Freedom Box. On n'est pas obligé de le faire par des Freedom Box, on peut le faire par des réseaux internes. Mais il faut développer des réseaux internes, c'est pas si compliqué avec les technologies actuelles. Moi je pense que dans les écoles, dans les municipalités, dans les hôpitaux, il faut créer des réseaux internes d'échange de données qui échappent complètement à la logique Internet de Google et compagnie. Et ça, vous voyez, on est les patients et nous sommes dans le même banc. Il faut arrêter de penser, on est dans la réciprocité. Donc, effectivement, on n'a pas tout à fait le même statut. Il faut bien comprendre que si eux sont menacés dans leur intimité, par un certain nombre de mesures qu'on prend à leur égard, nous, nous sommes aussi sacrément menacés par la nôtre, hein, par l'exploitation des données sur les réseaux.